Vous écoutez France Culture.
Tout de suite, deuxième étape dans le Bombay Mix, c'est l'heure du débat. Je l'ai intitulé Économie, le défi indien. La Chine fait régulièrement les premières pages des journaux économiques ces dernières années. Mais l'Inde commence à faire parler d'elle pour autre chose que les clichés liés à sa pauvreté endémique et ses moussons abondantes. Derrière le tigre chinois, l'éléphant indien s'est mis en marche. Certes, pas au même rythme, mais difficile d'arrêter un grand mammifère quand il avance. Pour discuter des forces et des faiblesses de l'économie indienne, je reçois ce matin Arundhati Virmani, consultante mais aussi chercheuse à l'École des hautes études en sciences sociales à Marseille, Jean-Joseph Boileau, conseiller au CEPI, Centre de recherche sur l'économie internationale, et Jean-Luc Racine, directeur de recherche au CNRS. Impossible de parler de Bombay sans parler de l'argent. Et aujourd'hui, donc, notre débat porte sur l'économie, l'argent à Bombay et l'économie indienne. Bombay, la porte de l'Inde, par où sont arrivés les Portugais, les Anglais et les autres, tous les autres qui viennent du fin fond de l'Inde pour chercher la richesse en Inde. Et si je vous demandais pour commencer, Jean-Luc Racine, Jean-Joseph Boileau et Arundhati Virmani, un souvenir de Bombay quand vous êtes arrivés, avant de commencer ce débat, on disait il y a ceux qui sont pour Bombay et ceux qui sont pour Delhi, et vous disiez, Jean-Luc Racine, non, bah Bombay, moi non, mais j'ai un souvenir d'il y a 40 ans.
Oui, non, c'est parce que c'est une vieille histoire. Moi, je suis arrivé à Bombay en 1968, où j'ai logé dans une pension qui était un de ces modèles classiques avec un mélange d'arménien, de cuisine indo-britannique ou britanno-indienne. Ça faisait partie un peu de l'esprit de la ville. Et chose amusante, c'était un peu mon voyage initiatique indien qui commençait. Et je me suis retrouvé dans les studios d'Air Radio qui émettaient en français probablement une heure par semaine. Donc voilà, le cycle est bouclé. Aujourd'hui, c'est l'inverse.
Jean-Joseph Boileau, vous, quand vous allez à Bombay, c'est pour aller voir la première bourse d'Asie, qui est la Bombay Stock Exchange, qui a été créée en 1875 ?
Exactement. C'est une ville... Moi, j'adore Bombay, donc peut-être parce que je suis plutôt un financier. mais ma première rencontre avec Bombay a été catastrophique, parce que là, je m'étais levé probablement encore plus tôt, et j'étais arrivé à 5-6 heures du matin, et... Le bus de l'aéroport nous avait déposé assez loin et on avait fait toute la Marine Drive à pied. Et ce qui m'avait choqué, c'était de voir ces milliers de gens qui dormaient, ces traces de ce qu'on prenait pour du sang rouge, vous savez, le long des murs, les corbeaux,
les crachats de panne, il faut expliquer.
Et en fait, petit à petit, ça c'était même mon initiation, j'ai découvert que les gens qui dormaient dehors, c'est pas parce qu'ils avaient rien, c'est parce qu'aussi il faisait très chaud, parce que ça prenait beaucoup de temps de retourner chez eux, qu'ils travaillaient donc pas loin et donc ils préféraient dormir sur place, que les corbeaux c'était très salutaire parce que c'était probablement le premier éboueur de la ville de Bombay, que troisièmement, les aigles qu'on voyait loin, c'était des vautours, des tours du silence par-ci. Et puis, cette ville de 20-30 millions d'habitants, ben, j'y reviens maintenant tous les 6 mois. Et c'est une des villes dans lesquelles je me sens très, très bien.
Arundhati Virmani, vous n'êtes pas de Bombay, vous êtes d'ailleurs.
Non, je suis de Delhi. Et le premier mot qui vient à mon esprit quand je pense à Bombay, c'est Maya, illusion. Et la première fois que j'étais dans cette ville, c'était pour un mariage de mon cousin. Et c'était la pulsion, la vie, le temps éternel qu'on passe assis dans un bus ou un taxi, des gens extrêmement civilisés. Quand on va aux archives, on nous dit « non, d'abord on va boire un thé ». Ça ne m'est jamais arrivé en France d'ailleurs. Et maintenant, c'est toujours ça grouille de vie, c'est le cœur un peu financier comme vous avez dit. Et une scène extraordinaire à Bombay. Je rentre chez mon cousin très tôt le matin. Il m'a donné des directions. Il m'a dit, devant ma maison, tu trouveras, il y a un vendeur de pastèques. Et tu ne peux pas te tromper de la rue parce qu'il y a un tas de pastèques comme ça. Et comme j'arrivais vers 4h30 le matin, j'ai dit, mais j'étais bête, je ne vais jamais voir tous ces pastèques. Il va arriver dans la journée. Eh bien, j'entre dans cette rue, et il était là, endormi, parmi ses pastèques. Et c'est ça, Bombay peut changer, mais il y a toujours ce côté un peu continu.
Bon, c'est pas la pastèque qui a fait la richesse de Bombay. Avant-hier, c'était l'opium, hier, c'était le textile. Qu'est-ce qui fait la richesse de Bombay aujourd'hui, Jean-Jacques Boileau ?
Ce sont les services. C'est une, d'abord, c'est la seule capitale financière de l'Inde, et qu'on le veuille ou non, l'économie de cette importance-là, ça génère beaucoup de finances. C'est, comme vous le disiez, en Asie, une des plus grandes capitales financières aussi maintenant, donc c'est la troisième, je crois. Et puis, derrière ces services financiers, c'est la capitale du business de l'Inde. C'est-à-dire que c'est là, il y a tous les grands patrons, il y a l'essentiel des sièges sociaux, etc. Ce n'est que depuis assez récemment que Delhi a pris à rattraper le train et où on commence à avoir vraiment un monde patronal installé. Mais pour l'essentiel, d'ailleurs, il suffit de voir la trajectoire des avions, le trafic aérien, et on voit que c'est autour de Bombay que se construit la totalité de la distribution. Donc c'est pas seulement des services financiers, c'est le monde patronal, ce sont les artistes, parce que c'est là qu'il y a l'argent. Et la seule chose qu'il n'y a pas, et c'est très important, bien sûr, c'est le pouvoir politique qui, lui, est à Delhi, bien ancré.
Deux chiffres pour illustrer ce que vous dites, Jean-Joseph Boileau. 5% du PIB du pays, 30% des recettes fiscales viennent de Bombay ou de l'état du Maharashtra, c'est dire l'importance donc de Bombay, de Gateway of India, la porte de l'Inde, et de l'état du Maharashtra qui est un des plus peuplés de l'Inde avec l'Uttar Pradesh. Mais alors c'est pas le même, du tout le même, on va dire, la même configuration, l'état de l'Uttar Pradesh et l'état du Maharashtra. Satyam, si je vous dis Satyam, qu'est-ce que vous me dites, Jean-Joseph Boileau ?
Et c'était la troisième ou quatrième société informatique qui vient de faire faillite et qui, en fait, a été rachetée par un tycoon indien qui n'attendait que cela pour se diversifier dans les services informatiques qui sont quand même... C'est la poule aux œufs d'or de l'Inde aujourd'hui.
Et alors, vous dites Mahindra. Vous vous dites poule aux œufs d'or, et Sukuta Mehta, dans Bombay Maximum City, lui dit « Bombay est un oiseau d'or ».«
Bombay est un oiseau d'or », m'a confié un vieillard logé dans un taudis sans eau ni toilette, pour m'expliquer pourquoi il était venu ici et pourquoi la ville continuait d'attirer les foules. La bouteille de Dom Pérignon qu'on vous sert au Bayview, le bar de l'hôtel Oberoi, coûte une fois et demi le revenu annuel moyen. Et 40% des logements de Bombay n'ont pas l'eau potable. Un autre de mes interlocuteurs disait les choses autrement. Personne ne crève de faim à Mumbai. Ici, les centres d'amaigrissement se comptent par centaines. Bombay est la plus grosse ville de l'Inde et la plus dissolue, la plus riche.
Ce qui est extraordinaire dans Mehta et moi qui m'a énormément appris, c'est que c'est une économie que personne ne connaît. Si Bombay tient, c'est parce que plus de 50% du PIB de Delhi en réalité, c'est pour ça que c'est plus que 5%, je pense, c'est de l'économie parallèle, c'est l'économie des mafias, au sens large du terme, et cette ville ne tiendrait pas sans cela. Or, Sukuta Mehta l'a décrit d'une façon absolument remarquable.
On diffusera à 11h un documentaire sur l'argent à Bombay. On entendra justement l'imbrication de l'argent propre et de l'argent sale et la prostitution et tous ces gangs qui contribuent à nourrir cette économie parallèle dont vous parlez. Si on parle de l'économie indienne, un chiffre, 6,7% de croissance annuelle au dernier exercice fiscal qui s'est arrêté au 31 mars 2009, puisque les années fiscales, c'est 31 mars, 31 mars, 6,7% contre 9% les années précédentes. 6,7%, Jean-Luc Racine, ça ferait rêver tous les pays européens. Les Indiens disent « Ah, on baisse ».
Oui, c'est-à-dire il y a deux choses là. Pendant la décennie des années 90, la croissance indienne a été en dents de scie, mais elle n'est jamais tombée au-dessous de 4%. On est entré dans un nouveau cycle, d'une certaine façon, avec le début des années 2000, et avec donc plusieurs années à 8-7, 9, 9-2, 9-3. Là, ce 6-9, évidemment, c'est très bien par rapport à la moyenne mondiale. Et on sait que l'économie mondiale, par temps de crise, va être tirée par les pays émergents, la Chine et l'Inde en particulier, puisque le Brésil fait moins bien. En revanche, ce chiffre de 6,7, 6,9, c'est le début du contre-coup de la crise. Le chiffre pour le dernier trimestre est plus bas. Donc la question qui se pose est de savoir si ce 6,9 est un creux avant une remontée ou si c'est le début d'une descente qui pourrait mener vers 5,5, c'est l'interrogation. C'est un des paris sur lequel le ministre des Finances du nouveau gouvernement va travailler pour présenter le nouveau budget.
Alors vous disiez début des années 90, est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière avec vous pour un peu raconter comment était l'Inde d'avant et l'Inde d'après 91, parce que là on est 18 ans après, mais l'Inde libérale, la Shining India, celle qui est dans le libéralisme, c'était pas toujours ça quand vous avez découvert l'Inde il y a 40 ans.
Ah oui, mais là encore, il faut avoir le sens de la nuance. Il y a un certain nombre de chercheurs ou d'autorités américaines, par exemple, qui disaient avant 1991, l'Inde était socialiste. Bon, faut pas confondre un rôle important de l'État, voire un rôle important de la bureaucratie, qui a contribué à freiner la croissance indienne, c'est indéniable. Mais en même temps, et c'est un débat qui peut se poursuivre, la ligne choisie par Nehru, le premier des premiers ministres indiens, pendant de longues années, a été celui d'une économie mixte, avec un pouvoir d'État considérable, entre autres pour redéfinir en quelque sorte la géographie économique et industrielle du pays, tout en laissant une économie de marché qui a fini par regretter le poids de l'État, jugé excessif. Et donc on a vu à la fin des années 80 un certain nombre de gens du sérail, pas simplement des idéologues imprégnés par Reagan ou Thatcher, dire on ne peut plus continuer comme ça, il faut se réformer. Et c'est ça le mot indien. Le mot indien, c'est la réforme. Et donc, à partir de 1991, quand Manmohan Singh, l'actuel Premier ministre réélu, était ministre des Finances, s'est mis en place une politique économique de réforme graduée dans laquelle l'État garde un rôle régulateur, fût-il amoindri. Et évidemment, la vigueur de la crise financière qui a démarré aux États-Unis avec les subprimes et ses conséquences économiques ont en quelque sorte ravivé un peu le drapeau de la ligne indienne en disant nous sommes pour le marché, nous réformons, mais l'État n'abdique pas. Et c'est un peu dans l'air du temps aujourd'hui.
Dans le Bombay Mix, on s'intéresse à l'Inde urbaine, l'Inde moderne, on pourrait dire. Mais l'Inde urbaine et l'Inde moderne, c'est 300 millions de personnes. 700 millions d'autres sont dans les campagnes. Un chiffre, pour illustrer ce que je dis, 8% des foyers ruraux ont un réfrigérateur contre 63% dans les villes. Comment est-ce que s'articule, à Ondati, Virmani et Jean-Jacques Boileau, cette double Inde, c'est-à-dire l'Inde des villes qu'on connaît, et à Bombay, on voit comment, on pourrait dire, vous parlez de pulsation, de rythme, mais quand on s'enfonce dans le Maharashtra ou quand on s'enfonce dans l'Inde encore plus rurale, dans le Madhya Pradesh ou dans l'Uttar Pradesh que cité tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe ? Arundhati Virmani.
Alors, on a parlé avec toute cette libéralisation, on a parlé de deux Indes. On a parlé de Bharat, donc l'Inde rurale, qui fait référence à cette Inde mythique, et on a parlé de l'Inde, donc Bharat contre l'Inde. Et c'est vrai qu'actuellement, ensemble et avec ces élections, que cette Inde rurale s'est réaffirmée, que le mot clé en Inde pour la grande partie de cette population, c'est le mot Vikas, ça veut dire développement. Donc l'Inde rurale veut participer à ce renouvellement économique et veut en tirer des bénéfices. Alors on parle beaucoup de cette force de Bombay, hein, le corps financier, Bollywood, mais cet Inde rural commence à aussi s'intéresser à la mobilité sociale et mobilité professionnelle, tournée vers l'éducation, aller vers des villes comme par exemple Bangalore, je dirais, et trouver de l'emploi dans des endroits comme les call centers. Et pour moi, c'est vrai que Bombay est un peu au sommet de cette pyramide urbaine indienne, mais peut-être Bombay est un peu sur le déclin et qu'il y a d'autres villes qui s'affirment où cet Inde rural court et trouve dans ces espaces une autre façon de participer à l'enrichissement indien.
Alors, Bangalore, pour sous-titrer pour nos auditeurs, c'est la capitale du Karnataka, donc l'Inde plus dravidienne, l'Inde du Sud. Les call centers, c'est les centres d'appel où ont afflué de jeunes diplômés. Et un chiffre pour illustrer ce que vous dites, Om Dati Varmani, plus de 2 millions d'emplois ont été créés en 15 ans à Bangalore, 8 millions dans l'indirect, dans tout ce qui est high-tech. Et il y a un phénomène à Bangalore qu'on appelle le B2B. Vous savez ce que c'est, le B2B ? Le Back to Bangalore. C'est-à-dire que c'est les Indiens qui sont partis faire leurs études à l'étranger et qui sont revenus. Ouais. Donc ça aussi, ça participe à un nouvel élan de l'Inde, tous ces non-resident Indiens qui reviennent et qui s'installent pour faire profiter à l'Inde de leur savoir, de leurs études faites en Californie, à Londres ou ailleurs.
Mais en fait, il y a un phénomène qui est moins spectaculaire que le retour de ces NRI, Non-Resident Indians, à Bangalore. C'est Back to Bangalore, c'est le mouvement de ces gens, des écoles d'ingénieurs dans les provinces. Eux, ils viennent dans ces call centers, ils commencent avec un salaire autour de 8000 roupies, ce qui est considérable pour eux, et ça leur donne l'opportunité de rencontrer des Indiens qui viennent de tous les coins de l'Inde. Et donc ça, c'est vraiment un espace d'intégration, de mariage et même de cohabitation, ce qui est un phénomène tout à fait nouveau dans l'Inde.
Je lisais aussi, avant de vous donner la parole, Jean-Joseph Boileau, que dans ces call centers, les Arun et Arundhati qui prennent le micro, s'appellent plus Arun et Arundhati, s'appellent Mike et Josephine, et prennent des accents soit californiens, soit new-yorkais, pour répondre de l'autre côté de l'Atlantique à des gens qui les appellent. Ils ne disent pas...
C'est la règle.
Allô, call center. Voilà, Jean-Luc Racine.
Oui, c'est la règle des call centers. Hein. C'est classique, c'est vrai en Inde, mais c'est vrai ailleurs aussi.
Mais un Indien de Bangalore arrive à prendre des accents américains ou anglais, ce qui est quand même...
Écossais.
Ou écossais. Mais c'est vrai qu'il est dans l'Inde rurale et en Écosse, on roule les airs de la même façon. Jean-Joseph Boileau.
Oui, je voulais dire, d'abord, il y a une image de l'Inde qui, je pense, ne correspond pas à la réalité. C'est celle qui serait d'un grand dualisme entre l'Inde des campagnes et l'Inde des villes. Deuxièmement, il y a toujours un problème, évidemment, de définition statistique. Je pense que les statistiques officielles qui donnent cette idée qu'on a 70% de la population qui serait de type rural tiennent à une sorte d'effet de seuil bien connu, qui est qu'on définit comme zone rurale quelque chose qui est beaucoup plus important, et en réalité, il y a des tas de chapelets. Donc ce qui me frappe, au contraire, en Inde, c'est qu'il y a assez peu ce dualisme ville-campagne. Le dualisme profond de l'Inde, c'est un dualisme, me semble-t-il, plus entre l'Ouest et l'Est, c'est-à-dire entre cet arc fertile que je dessine entre Delhi, Bombay, Pune, et puis Bangalore et Chennai, et puis les régions d'Uttar Pradesh et du Bengale, de l'Orissa. Là, il y a un vrai problème. Pourquoi je dis ça ? Parce que partout, à chaque fois que je vais en Inde, je descends bien sûr dans une grande ville par la force des choses, et ensuite je prends des bus, des trains, et je vois qu'en réalité il y a un continuum. L'exemple type, c'est Bombay. On arrive à Bombay, passe de 3 jours, ensuite je prends un bus pour aller à Pune, qui est une ville qui est à peut-être 150 km, qui est maintenant reliée par des bus qui partent toutes les 5 minutes, avec en plus un train qui le double. Et puis de Pune, je prends à nouveau des bus pour aller dans des villes dites secondaires. Et je m'aperçois qu'en réalité, tout ça, ça forme continuum. Alors pourquoi ? Eh bien parce que l'Inde, à la différence du Brésil, n'a pas eu justement ce phénomène du dualisme intérieur extrêmement important. Le patronat indien, en dehors du secteur des IT, table d'abord sur son marché intérieur. Et son marché intérieur, ça c'est extrêmement intéressant, c'est la façon dont il a pu vendre ses téléphones mobiles à 450 millions de personnes. Ça, c'est pas que la population des villes, grandes villes, qui peut évidemment répondre à ce souci. J'observe également que face au défi, là qui est un vrai défi, l'agriculture, Vous voyez, il y a donc un problème qui est l'agriculture indienne. Les grands groupes indiens, business house, comme on les appelle, se sont lancés dans la distribution, la grande distribution. On vient d'annoncer l'accord avec Walmart, par exemple. Et à partir de ce business model, ils vont chercher directement dans les campagnes les sources d'approvisionnement. Donc c'est cette opposition que j'ai souvent lue entre ville des campagnes l'un des campagnes et l'un des villes, il faudrait faire attention parce qu'elle est en partie vraie, mais elle donnerait l'impression qu'il y a un fossé entre les deux. Pas le sentiment.
Jean-Luc Racine.
Oui, j'ai longtemps travaillé sur cette question de ce qui se passe dans les petites villes, d'une part, et puis ce qu'on appelle les circulations migratoires, c'est-à-dire les paysans qui migrent de leur village, mais pas définitivement. Et entre autres, j'avais travaillé au Karnataka, et un bon nombre de ces migrants villageois allaient à Bombay. Mais selon certaines règles, on part seul, quand on n'est pas assuré. Quand ça va un peu mieux, un des fils vient aussi, mais on ne s'implante pas à Bombay tant qu'on n'arrive pas à décrocher un emploi plus ou moins garanti qui permet de faire venir la famille. D'une part, c'est la première remarque. C'est-à-dire qu'il y a des circuits qui relient les villages, les petites villes aux métropoles. Et puis d'autre part, il ne faut pas oublier que dans les villages, comme dans les petits bourgs, une des grandes césures, c'est les gens qui ont des moyens et ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ont des moyens, les propriétaires, on va dire simplement aisés, leurs enfants et leurs fils en particulier vont être avocats au chef-lieu du district, voire à la capitale de l'État, vont être ceci, vont être cela. Et puis, ils courent de la ville à la campagne et de la campagne à la ville un fil tout à fait important qui est le fil politique. On ne comprend pas comment fonctionne la démocratie indienne si on ne voit pas à quel point la vie politique percole jusqu'au monde rural. Et quand on parle de Bombay ou quand on parle du Maharashtra, un des hommes forts de l'État, Pawar, qui avait fait scission du Congrès pour créer le Nationalist Congress Party, parce qu'à un moment, en 2004, il n'était pas très réjoui à l'idée que Sonia Gandhi puisse devenir Premier ministre. C'est quelqu'un qui a une assise fondamentalement rurale, appuyée sur les coopératives des puissants des villages. Et cette construction qui relie en fait par mille canaux l'un des campagnes et l'un des villes, elle est fondamentale. En même temps, c'est vrai qu'il y a une un des villes, qu'il y a une un des campagnes. C'est vrai que dans les villes, il y a d'énormes différences sociales. Vous citiez tout à l'heure Bombay Maximum City. Meta quelque part une formule en disant il y a un double système monétaire dans la ville. Le double système monétaire, c'est 50 roupies, c'est beaucoup pour une partie de la population, 50 roupies, c'est rien pour les riches de la ville. Et on pourrait rajouter un zéro pour dire 500 roupies. Et donc Bombay, c'est un des lieux où se joue tout cela, hein. Entre les deux derniers recensements, 91-2001, Bombay a gagné 1 million d'habitants. Uniquement par migration. C'est-à-dire que la migration a apporté autant que la croissance naturelle. Et on peut aussi se référer à ce qu'est le sexe ratio de Bombay. C'est 750 femmes pour 1000 hommes. Ce qui veut dire qu'on a une société déséquilibrée parce que Bombay, où plus de 50% de la population vit dans des slums. C'est pas vraiment des bidonvilles, hein, mais enfin vit dans des slums. Slumdog millionnaire, évidemment, on n'échappe pas à ce film. Bombay attire, continue d'attirer, parce que dans les campagnes, on pense que on arrivera probablement à trouver à vivre. Mais c'est coupé, c'est brisé, c'est lié, c'est ça qui fait la grande métropole.
Le marché domestique dont on parle depuis le début de ces débats, les espérances, c'est de multiplier par 5 d'ici 2020, donc ce qui montre un petit peu le poids de l'économie.
Nous verrons.
Oui, on verra selon les perspectives. Vous parliez des gens qui partent du Karnataka vers Bombay. Si on va plus au sud, il y a l'état du Kerala, qui est un état à la fois communiste et chrétien, avec un taux d'alphabétisation des femmes qui doit frôler les 90%. Et ces gens-là, eux, décident d'aller plus loin que Bombay, ils vont jusqu'à Dubaï ou dans les Émirats. Et là, la crise a fait que...
Ils reviennent.
Beaucoup de gens sont revenus. Et qu'est-ce qu'ils deviennent, tous ces gens qui étaient partis?
Il y a deux choses. Hein, quand on parle de l'Inde du Sud, quand on voit l'histoire de Bombay. L'histoire de Bombay, c'est... Alors, Bombay se part du titre de la ville la plus cosmopolite de l'Inde. Etc. Très bien. En même temps, c'est une des villes les plus chauvines de l'Inde. Hein. Ce qu'on appelle les mouvements nativistes, ou en bon français, les mouvements pour les fils du sol, dont le Shiv Sena est le parti emblématique, dans les années 60, on fait campagne contre les Indiens du Sud, qui étaient censés occuper trop de place dans l'économie des bureaux, en particulier, le petit fonctionnaire employé, etc. Aujourd'hui, ils se retournent contre les Indiens du Nord, en disant les gens d'Uttar Pradesh, les gens du Bihar nous prennent des emplois. Et on sent bien que cette compétition pour l'emploi ouvre la porte à des crispations politiques qui peuvent être extrêmement violentes. Et donc, encore une fois, on ne peut pas définir Bombay d'un seul mot. Alors, c'est un cliché hein, de dire que l'Inde, c'est tout et son contraire. Bon, Bombay aussi, c'est tout et son contraire. Mais c'est une espèce de mosaïque dont il faut essayer de replacer les différents éléments. C'est une ville, mais c'est presque inévitable, une ville qui attire beaucoup. C'est aussi une ville qui suscite, de la part de ce qu'on appelle donc les Marathes ou les Maharashtriens, pour une partie d'entre eux qui se sentent menacés par les flux migratoires et qui se tournent donc vers des partis politiques qui instrumentalisent cette peur du lendemain.
Écoutez France Culture, vous êtes au cœur du Bombay Mix jusqu'à 12h30. Jean-Luc Racine, Arundhati Virmani, Jean-Joseph Boileau, on a parlé de l'économie indienne. On pourrait dire intramuros, si je puis dire, vu de Bombay. Mais l'Inde, sur le marché mondial, combien ça pèse? Alors, un chiffre, 22% du PIB, c'est les exportations pour l'Inde. C'est la moitié presque du chiffre chinois, qui est 40%. Comment se positionne l'Inde par rapport à son grand rival chinois? Alors, par rapport notamment à l'Afrique. On a l'impression que l'Inde vient de retrouver l'Afrique. Premier forum Inde-Afrique en avril 2008. Première visite du Premier ministre Manmohan Singh en 2007 au Nigeria, c'est la première visite d'un Premier ministre en Afrique depuis Nehru en 1962. Pourquoi est-ce que l'Inde a oublié l'Afrique?
Parce qu'au Nigeria, il y a du pétrole.
Oui, alors on comprend pourquoi ils viennent, mais pourquoi est-ce qu'ils ont attendu aussi longtemps pour y revenir?
Oh, parce qu'il y a eu quand même l'épisode difficile de l'Afrique de l'Est, hein, avec des communautés indiennes commerçantes qui tenaient le haut du pavé et qui se sont, pour une bonne part, fait jeter dehors après les indépendances. Quant au premier forum Inde-Afrique, New Delhi s'est un peu réveillée. Il y a eu beaucoup moins de monde au premier forum Inde-Afrique. J'entends des chefs d'État et de gouvernement africains qu'il y en avait eu un an plus tôt au Xème forum Chine-Afrique. Donc l'Inde redécouvre... elle a démarré sa réforme, évidemment, 15 ou 20 ans après la Chine. Elle est aussi à la recherche d'un certain nombre de matières premières. Et donc, elle redécouvre tout naturellement l'Afrique. Elle opère ses percées vers l'Amérique latine, comme la Chine, mais sur un mode différent.
Jean-Joseph Boileau, par rapport à la Chine, le grand rival.
Oui, d'abord, il faut faire toujours attention aux statistiques qui sont citées en permanence, etc. Il s'agit du commerce de marchandises, les 20%. Alors évidemment, la Chine est un grand producteur de produits manufacturés. Donc, dans le commerce mondial de marchandises, elle va peser plus. En termes de services, évidemment, l'image est assez différente. Hein. Donc, dire que l'Inde est un pays très peu ouvert parce que son ratio est deux fois inférieur à celui de la Chine, ça ne tient pas. En réalité, si vous ajoutez les services, qui représentent à peu près, un peu plus du tiers maintenant, des services informatiques uniquement, d'ailleurs, hein, un peu plus du tiers du commerce de marchandises, si vous rajoutez les remittances, donc tous ces revenus rapatriés, vous parliez du Kerala tout à l'heure, on a un total de 40% du PIB en ouverture. Non, l'indifférence, c'est que l'économie chinoise, c'est quasiment trois fois maintenant l'économie indienne. Et donc, à l'échelle du monde, New Delhi pèse à peine 1% des échanges mondiaux de marchandises et de services. Sur le plan financier, Bombay apparaît une très grande place financière, mais enfin, c'est tout petit, c'est Lyon multiplié par deux. Donc il faut faire très attention à cela. Et le problème de l'Inde, c'est effectivement que c'est comment gérer sa priorité au marché intérieur. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus équilibrant pour le monde d'ailleurs que le modèle chinois. Mais en même temps, le fait que, vous connaissez le proverbe indien, le monde piétine la fourmi et tremble devant l'éléphant. Et ce dont l'Inde se rend compte, et je pense que l'Europe aurait intérêt à faire attention à cela, c'est qu'il y a un déséquilibre qui s'est créé en l'espace de 20 ans, à l'échelle mondiale, entre l'Inde et la Chine. Et pour le pétrole, par exemple, et la stratégie africaine dont parlait Jean-Luc tout à l'heure, c'est ça qui est au cœur. C'est qu'il faut désormais que Delhi accélère la course sur les théâtres d'opération où la Chine, depuis une vingtaine d'années, mène une politique dont on n'a pas parlé il y a 20 ans, mais une politique continue, parce qu'elle absorbe par contre 10 fois plus de matières premières que l'économie indienne, ça c'est, il faut le savoir, 10 fois plus l'économie chinoise. Elle a besoin de 10 fois plus de matières premières, donc elle peut investir sur les terrains en Asie centrale ou en Afrique, et notamment donc en Afrique, et l'Inde a réagi il y a quoi, 3-4 ans en disant « il faut moins que j'existe ». Et ça c'est très intéressant parce que les Africains eux-mêmes se sont rendu compte que c'était très bien l'arrivée de la Chine parce que ça avait rééquilibré le jeu face aux Occidentaux, mais que peut-être c'était pas idiot d'avoir aussi une autre puissance, même si elle n'était pas énorme, et qui s'appelle l'Inde. Et là-dessus, ce qui est intéressant, c'est l'opposition du soft power et du hard power. Il est vrai que l'Inde joue remarquablement bien de ce qu'on peut appeler le soft power. Je suis surpris de voir en Afrique, par exemple, l'importance des chansons Bollywood, du cinéma Bollywood. Et l'Inde travaille sur ce registre-là. La Chine travaille sur un autre registre, qui est l'assistance technique. Mais on a vu dans le numéro spécial, dans Jeune Afrique, un dossier consacré aux relations de l'Inde et de l'Afrique. L'Afrique attend l'Inde aujourd'hui. À la limite, plus qu'elle n'y va.
Arundhati Birmanie, vous souriez quand on dit l'Afrique attend l'Inde.
Elle est à Marseille, donc elle se rend compte.
Je m'en souviens de 1962 et puis ces grands slogans Hindu-Chini, bye-bye, et la peur de l'Inde vis-à-vis de la Chine et ce sentiment dans les milieux du gouvernement indien que si on n'avance pas, la Chine va nous bouffer pour le petit déjeuner et qu'ils font très vite, que l'Inde est un peu encombrée par sa façon d'avancer avec un consensus. Alors pour les Chinois, nous sommes des rigolos parce que tout le monde a le droit de dire non. qui est peut-être très simple et qui ralentit le développement économique. Alors, je ne serais peut-être pas tout à fait d'accord sur l'usage de l'Inde soft power. Je pense que le gouvernement indien investit peu en comparaison de la Chine, dont la Chine a investi énormément sur l'implantation des Confucius Centers. Alors,
Vous avez raison.
Et l'Inde, en tout cas, mais ça se fait malgré une politique nationale, hein, que Bollywood marche. Bollywood a toujours marché à l'intérieur du pays et que maintenant l'Occident le découvre.
Oui, mais en Afrique, c'est surprenant.
Oui, l'Afrique, mais la Chine aussi. La Chine, quand j'étais en France dans les années 80, en faisant ma thèse, écoutez, j'étais à Bourg-en-Bresse et le matin, en allant aux archives, des gens qui étaient là, ils me chantaient cette chanson de Raj Kapoor, Mera Dil Hai Hindustani. Et ils connaissaient, Bollywood était très connu en Russie. Donc tout cela, ce soft power, c'est vrai, soft power n'est pas négligeable. Et dans les années à venir, c'est peut-être plus important que nuclear power. Hein.
C'est très important ce que vous avez dit. La Chine a découvert le rôle du soft power. C'est tout à fait exact, et en particulier en Afrique. Mais si elle l'a découvert, c'est parce qu'elle a découvert que l'écart énorme de puissance militaire et économique entre l'Inde et la Chine ne suffisait pas à combler cet écart. Et donc c'est un très bon point que vous soulignez. Et inversement, l'Inde découvre que le soft power, ça ne suffit pas. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Alors là, c'est assez intéressant. Elle mobilise ses groupes privés. Les grands groupes, les fameux groupes comme Reliance, Essar, etc., sont de plus en plus présents en Afrique. Alors, soit eux directement, soit dans des alliances avec des groupes publics qui, eux, n'ont pas les reins extrêmement solides, comme ONGC, par exemple. Et je pense que ça va aider à la la globalisation d'un ensemble de grands groupes. On a beaucoup parlé, nous, d'affaire Mittal-Arcelor, mais finalement, dehors de ce groupe indien, il y a eu Tata, et puis voilà, c'était tout.
On allait en parler.
En Afrique, il y en a beaucoup plus.
Les noms qui viennent quand on parle de l'économie indienne, c'est Mittal, Tata, et aussi donc la firme Suzlon dans l'éolien. Alors, un mot sur Mittal. Donc, qui est-il, Arundhati Virmani, ce Rajasthani qui appartient à la communauté des Marwari?
Alors, son prénom est très intéressant.
Lakshmi. La richesse.
Donc, oui, voilà, la déesse Lakshmi.
La déesse de la richesse.
Et moi, je trouvais très intéressant tout ça. En Inde, on a beaucoup parlé de Lakshmi Mittal quand il a loué le château de Versailles.
Pour 55 millions d'euros voilà. Pour le mariage de sa fille en 2004, location du château de Versailles, s'il vous plaît.
Oui, qui a fait venir toute la... C'était un mariage à l'indien.
Alors, mariage à l'indienne, moi j'en ai connu à Bombay quand j'habitais là-bas, c'était 500 personnes, on faisait la queue pour manger son tali, on repartait, ouais. On disait bravo. Là, c'était pas 500 personnes.
Non, c'était...
C'était beaucoup plus
mais
que des têtes couronnées.
Mais très select, très people, comme on dirait. Mais c'était le mariage dont on a parlé beaucoup en Inde. Et en fait, Lakshmi Mittal peut résider à Londres.
Première fortune du Royaume-Uni.
Voilà, il peut graviter.
Il peut résider à Londres, ça c'est sûr.
Mais ce mariage était fait pour la société indienne. C'était fait selon les règles indiennes, selon les codes indiennes. Et donc, quand on lit dans les journaux toute personne qui est décrite vivant aux États-Unis ou dans la politique indienne, par exemple, le nouveau gouverneur de. Il y avait un titre à propos de lui, de Louisiane. Il disait il vit en Louisiane, mais son cœur bat en Inde. Et je trouvais ça merveilleux qu'un Indien peut aller n'importe où, Lakshmi Mittal également, mais on ne peut pas avoir un mariage de sa fille qui ne soit pas selon les règles.
Bon, et le mariage ArcelorMittal, c'était un bon mariage ou pas? Est-ce qu'il a eu
non.
raison?
Non, c'est pas un bon mariage. D'abord, il faut savoir qu'il a fait ça à Versailles parce qu'il avait depuis quand même un certain temps l'idée de racheter ce groupe. Hein, je le tiens de Francis Maire, l'ancien patron, ils en avaient déjà discuté avant, etc. Et donc, ce qui est remarquable, c'est l'indianité, sans doute dans le cœur de Lakshmi Mittal, mais aussi, je pense, à l'autre côté de la poche du portefeuille, c'est quelqu'un qui est extrêmement représentatif du sens de l'opportunité, de la vision que les grands hommes d'affaires ont aujourd'hui de leur avenir. Ça, c'est, je pense, extrêmement important. Il est en Afrique aujourd'hui, Lakshmi Mittal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il traite avec les personnalités françaises, car il avait compris que pour être en Afrique, dans une partie de l'Afrique, en particulier l'Afrique de l'Ouest, il vaut mieux être assez proche des réseaux du gouvernement français. Et ce qu'on a vu dans cette affaire, c'est que l'élite française des affaires et de la politique s'est divisée sur l'affaire Lakshmi Mittal, et qu'il a quand même réussi, grâce en particulier à Anne Méo, qui est une top conseillère en communication, qui a, on dit sur Paris, le réseau de relations le plus étendu, Lakshmi Mittal a réussi cette affaire parce qu'il il est rentré dans la société française avec, dans la tête, un certain nombre d'idées sur une vision de long terme. Est-ce que c'est une bonne affaire pour Arcelor? Non. Pourquoi? Parce que on sait déjà que la sidérurgie française était vacillante, celle du centre de la France encore plus, parce que là, elle est enclavée en termes de transport des matières premières, etc. Que l'acier fuit vers quoi? Vers les marchés émergents. Hein. La consommation française d'acier, c'est maintenant peut-être 12-13 millions de tonnes, vous vous rendez compte? C'est quasiment plus rien. On avait prévu, du temps du général de Gaulle, une production d'acier de 120 millions de tonnes. Et donc, les usines, évidemment, vont foutre le camp. Et quant à la recherche-développement, on a rarement vu de la recherche-développement être très, très loin, malgré tout, des marchés. Donc, c'est nous qui n'avons pas bien négocié. C'est Lakshmi Mittal qui a très bien négocié. Et en ce sens, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de cette classe d'affaires qui apparaît à l'échelle mondiale aujourd'hui et qui vient d'Inde. Le business chinois est très différent de ce point de vue-là. Très
Alors,
différent.
Moins médiatisé que Lakshmi Mittal. Tulsi Tanti, le PDG de Suzlon, donc moi j'ai découvert en préparant ces émissions que l'Inde était en pointe sur l'éolien.
Numéro 3 mondial, hein, je l'ai vu il y a une quinzaine de jours, c'est un homme absolument extraordinaire, il vous reçoit dans son bureau, Vous êtes accoudé, il vous montre les plans. C'est autre chose que Lakshmi Mittal, je pense, qui lui a dû sortir d'Inde pour faire ses preuves. Suzlon, lui, c'est en Inde. Il est passé d'une petite famille de textiles. Il a découvert par hasard, parce qu'il y avait des pannes d'électricité en permanence, que l'éolien pouvait éventuellement solutionner son problème. Il a commandé une éolienne qui a mis plus d'1 an à venir, et quand il a vu ça arriver, que c'était que du fer, il s'est dit, attendez, quand même, moi je vais en faire, et il en a fait d'abord pour lui-même, et puis ensuite il est devenu effectivement le numéro 2 ou 3 mondial de l'éolien, et il m'a montré le site que je crois personne ne connaît, en tout cas en France, qui est à une cinquantaine de kilomètres de Pune, le long d'un lac, un millier d'éoliennes, donc, dans le monde...
C'est les paysans du Maharashtra qui vont pas être contents, là.
Non, parce qu'ils en ont marre aussi des coupures d'électricité. Donc, l'éolien, l'Inde est en numéro 4 ou 5 mondial, je pense, mais elle a encore des progrès à faire.
Alors, je citais donc Mittal, Suzlon, je me retourne vers vous, Jean-Luc Racine, plus connu encore, Tata.
Oui, parce que Mittal, c'est un cas très particulier. Mittal, c'est donc quelqu'un qui a décidé, ça a été rappelé, de quitter l'Inde parce qu'il pensait qu'il ne pourrait pas véritablement déployer ses talents. Tata, c'est autre chose. Tata, c'est les vieilles familles industrielles, il y en a beaucoup d'autres.
Parsi. Hein.
Parsi.
De Bombay.
Donc, de Bombay, comme les Godrej. Moins connu à l'étranger, mais un nom connu de tous les Indiens. Ceci étant, il y a des noms parsis qui sont à la tête d'empires qui ont été construits à Bombay. Il faut quand même se rappeler que la fortune de Bombay, c'est pas simplement le commerce et aujourd'hui les services. Ça a été fondamentalement une ville industrielle. Mais la crise du textile l'a mise à bas. Mais il reste quand même quelques fleurons. Tata, c'est si j'ose dire, l'homme à tout faire ou l'entreprise à tout faire, qui fait véritablement tout. Depuis le savon de toilette jusqu'au service, en passant par tout ce qu'on peut imaginer, finalement.
Vernis aux ongles.
Oui. Et c'est une très belle histoire, évidemment, que celle des Tata. C'est pas tout à fait un hasard si, puisqu'on parle de Bombay, les attentats de novembre dernier ont visé le Taj Mahal Hotel, c'est-à-dire le fleuron du groupe hôtelier de l'Empire Tata.
Le Taj Mahal Hotel a été fondé par un des ancêtres de Tata qui n'arrivait pas à se loger dans un hôtel et qui a dit, moi je vais en faire construire un, ça sera le Taj Mahal Hotel.
Voilà. Comme toujours, il y a plein de mythes, il y a plein d'histoires, ça fait partie des grandes villes, ça fait partie des grandes familles. Ce qu'il y a de remarquable chez Tata, c'est justement cette capacité des groupes industriels indiens, même s'ils ont vécu pendant longtemps sous des contraintes bureaucratiques, à réussir à s'étendre, à la fois géographiquement à travers toute l'Inde. Un des piliers de la fortune Tata, c'est l'acier à Jamshedpur, la ville qui porte le nom de Jamshed Tata, qui était justement l'ancêtre fondateur de la firme sidérurgique, Tata Steel, qui a racheté l'anglo-hollandais Corus quelque temps après l'accord Mittal-Arcelor, mais cette fois, ce n'était pas une OPA inamicale. C'était un accord conclu par les deux parties. Donc, Tata à son actif quelques victoires symboliques. C'était au début des années 2000 le rachat de Titley, le numéro 2 du thé. Évidemment,
recolonisation à l'envers.
Oui, et puis alors, le fin du fin et l'erreur stratégique en même temps, ça a été il y a un an et demi, le rachat par Tata Motors
de Jaguar
et de Land Rover. Alors, très beau. L'histoire se retourne. C'était pas tout à fait le moment d'investir dans l'automobile, malheureusement.
Alors, Arundhati Virmani, vous glissiez malicieusement que Tata, c'était le vernis à ongles. Mais moi, quand je suis revenu à Bombay, Tata, c'était pas le vernis à ongles, c'était la Tata Nano. Tout le monde n'avait ça qu'à la bouche. Donc, la Tata Nano, c'est quoi? La plus petite voiture du monde, ou la moins chère?
La moins chère.
100 000 roupies, c'est-à-dire 1 500 euros, c'est-à-dire une bagatelle. 100 millions d'Indiens sont capables d'acheter cette voiture, donc c'est déjà le carnet de commandes est engorgé, ils n'arrivent pas à produire. D'ailleurs, il y a eu des mailles à partir avec au Bengale, Tata voulait s'implanter, les paysans se sont ligués en disant non, on n'y va pas, Tata va dans le Gujarat. Alors Arundhati Virmani, Tata, la voiture, c'est ça le symbole de l'Inde moderne, du Bombay Mix, on pourrait dire.
Oui, mais pour nous, c'est pas tellement excitante, Tata Nano. En fait, la vraie, si je parle de mon point de vue personnel, la vraie révolution,
oui, c'était trop portable avec dans une Tata Nano.
C'était le Suzuki.
Ah bon, Suzuki.
Alors non, attention sur la Tata Nano parce que ça risque d'être un peu ce qui s'est passé dans le rachat de la Jaguar. Les médias du monde entier et ça c'est remarquable, on parle. Je pense que sur le plan industriel, ça risque très largement d'être probablement la fin de Tata dans l'automobile. Pourquoi ? Parce que entre la Suzuki qui fait rêver tout le monde, la Maruti Suzuki introduite dans les années 80, on dit que dans le monde, il n'y aura plus que 10 à 12 producteurs de voitures. Et tout le problème de l'Inde, c'est est-ce que moi, je vais rester sur le marché ? Le seul aujourd'hui qui reste, il faut le savoir, c'est Tata. Tata a une façon de gérer son groupe qui est de laisser des CEO très indépendants, donc beaucoup d'autonomie. Simplement, lorsqu'il a un projet comme celui de l'automobile, ben, il a besoin de sous, donc il tire les profits. Le problème, c'est que la Tata Nano, qui est un modèle vraiment de base, qui va sortir non pas à 1500 euros, ça c'est la version de base qui n'a rien du tout, d'accord ? Donc il faut vous mettre à la position de qui va acheter exactement. Ouais. Elle va être plutôt à 2000 euros. Or, 2000 euros, vous tombez quasiment sur la dernière année, enfin le premier de la gamme Suzuki. Et là, il y a quoi ? Il y a les Coréens, il y a les Japonais. Et leur force de frappe est incroyable. Pourquoi Tata a sorti sa Nano ? Ben, c'était sa dernière carte.
Oui, et ça nous rappelle aussi que l'Inde, on parlait de Lakshmi Mittal, de Suzlon, l'Inde, aujourd'hui, c'est le pays où tout le monde rêve d'être entrepreneur et industriel. Le livre de Adiga, The White Tiger, le tigre blanc évoque ça. Et en fait, ce sont ces anciens, cette capacité entrepreneuriale. Pourquoi se restreindre à quelques grands noms, très connus, mais...
Le tigre blanc, pour expliquer un petit peu, c'est quand même quelqu'un du Karnataka qui invite le premier ministre chinois à venir faire du commerce avec lui.
Il écrit il écrit une lettre expliquant son vrai cursus, comment il est arrivé par des moyens pas toujours très nets, mais est-ce possible aujourd'hui en Inde ? Donc c'est ça qui a changé en Inde aujourd'hui. Avant, on pouvait rêver que à Bombay. On allait à Bombay, on entrait au cinéma. Tous les grands stars indiens sont venus de l'Inde, de la campagne, n'avaient rien dans leur poche et l'écrivent ça. Oui, le grand peintre indien actuel contemporain, M.F. Hussain, il est venu, il collait des affiches et aujourd'hui, ses tableaux se vendent à des prix extraordinaires. Donc avant, on allait à Mumbai pour rêver, pour se réaliser et se transformer en prince ou princesse. Et aujourd'hui, on peut aller à beaucoup d'autres endroits. Donc, c'est ça l'Inde pour moi.
Alors, Jean-Joseph Boileau, Arundhati Virmani, Jean-Luc Racine, pour doucher un peu l'enthousiasme de tout ça, les petites voitures avec ou sans climatisation, c'est bien, mais ça doit rouler dans des rues et sur des routes. Est-ce que l'infrastructure indienne suit au niveau des routes pour accueillir cet engorgement de voitures qui est promis ? Rien qu'à Bombay, les embouteillages que moi j'ai connus il y a 15 ans, c'était des bus et des taxis, quelques rares voitures. Quelques badjages qui sillonnaient ou qui slalomaient au péril de la vie du conducteur et de ses 5 ou 6 passagers entre les véhicules. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de voitures, mais l'Inde change aussi au niveau des infrastructures. Et est-ce que les routes sont là ? Est-ce que ça suit ? Et la pollution, dites-vous, Arundhati Virmani ?
Alors, pour le développement des infrastructures, des routes, aussi développer les ports, les voies de communication. L'Inde progresse à une vitesse qui n'est même pas Hindu rate of growth, qu'on disait pour l'économie. Et vraiment se déplacer dans ces grandes villes, déjà il y a 20 ans à Bombay, c'était un cauchemar. On s'endormait dans le taxi ou dans le bus. Délire reste cauchemardesque. L'avantage, c'est qu'on conduit très lentement. J'ai plus peur de conduire sur l'autoroute Marseille-Aix. Hein,
20 km/h, vitesse de pointe à New Delhi. Ça va.
Attendez, il faut quand même... C'est l'avantage d'avoir autour de la table des gens qui ont une longue expérience de l'Inde. On a sans arrêt parlé de ces problèmes-là. Donc il faut se poser plutôt la question, comment fonctionne l'Inde pour finalement, 20 ans après, se retrouver peut-être avec les mêmes problèmes. Et si elle s'est retrouvée avec les mêmes problèmes, alors que la population de Bombay a plus que doublé, c'est qu'elle résout les problèmes avec simplement une séquence qui est différente de la séquence chinoise. En Chine, on a effectivement une planification 5, 10, 15 ans à l'avance. En Inde, le modèle... qui n'est pas seulement parce qu'il est lié à la démocratie politique, mais le modèle économique est un modèle qui est beaucoup plus bottom-up. Et donc, ce sont les pressions, vous voyez, ces pressions qui obligent progressivement la société indienne, y compris son système politique, à s'adapter. Je prends un exemple, New Delhi. Ça, c'est impressionnant. New Delhi est une ville qui était quasiment un village, qui était, vous voyez, 400 000 habitants au moment de la partition, qui s'est développé assez rapidement après, mais qui ensuite avait des problèmes. Cette ville n'était pas conçue pour l'automobile. Ils ont construit, tenez-vous bien, en l'espace de 5 ans, 3 périphériques, comme on en parlait à propos de Pékin.
2 lignes de métro. Et ils vont accueillir les Jeux du Commonwealth en 2010.
Donc là, c'est intéressant. Le cas de Bombay, par contre, est là très important, parce que Bombay, c'est plutôt un relatif échec de la mise en place d'infrastructures. Et c'est en ce sens que je pense le Shiv Sena en particulier a joué un rôle extrêmement important en ostracisant cette capitale par volonté, comme le disait Jean-Luc Racine, par chauvinisme. Et Bombay a pris du retard dans ce domaine-là. Quand vous prenez le matin le train, parce que c'est la seule solution pour aller dans les nouveaux quartiers d'affaires, Bandra, etc. Mais c'est effrayant. Et pourtant, ce train, il faut le savoir, est plus efficace que nos métros, parce que ce sont des vrais trains, et il quitte la gare toutes les 2 minutes.
Jacques Racine.
Oui, Bombay a quand même un handicap. C'était au départ 7 îles, achetées par les Portugais au XVIe siècle. C'est devenu une péninsule. Alors évidemment, Manhattan aussi est une péninsule. Donc on ne peut pas simplement s'appuyer sur la géographie pour dire Bombay c'est difficile, lors des dernières pluies catastrophiques la ville était totalement inondée, mais quand même, un certain nombre d'Indiens qui nous disent Bombay c'est Shanghai, non, Bombay c'est absolument pas Shanghai, le port de Bombay c'est absolument pas les grands ports chinois, mais en même temps l'infrastructure à Bombay est catastrophique. On est en train de commencer une première ligne de métro. Ouais. Mais ça, c'est vrai pour toutes les grandes villes indiennes. Vous l'avez dit. Delhi, 2 lignes de métro. Delhi, population de la métropole, la région métropolitaine, 18 millions d'habitants. Bombay, 21 millions. Donc là, il y a un retard. Et ces retards-là, ça ne peut pas se compenser très rapidement. Mais il y a probablement derrière un paramètre social qui est la façon dont les riches vivent d'une certaine façon enclavés. Pas forcément enclavés physiquement, mais enclavés intellectuellement. Moi, j'avais connu ça à Calcutta, dans le quartier riche de Calcutta, à Alipur. Alors là, du coup, ils étaient enclos, hein, derrière des murs et tout. La rue, c'était n'importe quoi. Mais la rue, c'est collectif. Nous, on a notre club, on a notre société, on a nos voitures, nos chauffeurs, nos bonnes, etc. Et donc, la question qui se pose est de savoir jusqu'à quand une métropole en pleine expansion, Bombay a doublé sa population en 30 ans, peut fonctionner sans un certain civisme. Et Bombay illustre le principe un peu général de la politique indienne, les pauvres votent davantage que les riches. Les riches ont des moyens pour accéder au pouvoir qui ne passent pas nécessairement par le bulletin de vote.
Arundhati Virmani, dernière question pour vous. En 2001, vous signez l'Inde, une puissance en mutation. Est-ce que la mutation est terminée?
Ah non, j'espère que non. J'espère que non. Et puis, je pense que les Indiens et l'Inde aussi, c'est un pays qui réagit aux crises. Donc, on ne fait rien jusqu'à un moment que tout devient absolument insupportable. Et là, on est obligé de faire quelque chose. C'est comme ça que ça s'est passé pour l'histoire d'armement, pour la libéralisation économique. Les Indiens n'ont pas décidé, oui, ça serait bien pour l'économie. Il y avait vraiment le couteau à la gorge pour le faire. Vous parlez de civisme et de manque de civisme, c'est absolument vrai. Il arrivera un moment où cette inégalité et ce contraste deviendra insupportable. Et là, tout le monde sera obligé de sortir de ces enclaves, de ces grilles dans lesquelles ils s'entourent pour confronter les rues, le monde tel qu'il existe en Inde. Les classes moyennes, je pense, en Inde ont déjà commencé à ressentir ça parce qu'ils sont plus préoccupés de problèmes de mobilité sociale et montrent une tendance à agir dans ce sens beaucoup plus que les partis.
J'étais à Bombay au moment des attentats
novembre 2008
et ce qui m'a surpris, c'est effectivement la classe moyenne qui ne vote pas là était dans les rues, et ce qu'elle a dénoncé, c'est finalement moins ces terroristes que l'absence totale de gestion de crise. Même Ratan Tata, le grand patron, a dit le soir même, il n'y a pas de gestion de crise. Maintenant, je ne suis pas très optimiste pour Bombay. Pourquoi ? Parce que ce qui a été décrit comme le mécanisme correctif en Inde, quelques mécanismes politiques, ne fonctionne pas pour l'instant à Bombay. Et d'autre part, ce qui a été indiqué sur la cécité des riches est frappante. Quelques jours après, je vais sur la plage de Julu et on voit les hélicoptères qui passent toutes les 2 minutes. Qui sont dans ces hélicoptères ? Ben, tous ces grandes fortunes qui habitent de l'autre côté de la ville, qui ne peuvent plus effectivement prendre les transports, mais eux, ils s'en moquent. Ils vont en hélicoptère sur leur plage privée à Goa, etc. Donc je crains que le mécanisme correctif avec Bombay ne soit plutôt la poursuite de la dégradation de la situation jusqu'à un moment où l'industrie financière du pays va être quand même confrontée à un énorme problème qui est la réputation de la ville. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est en train de fuir la ville. Et donc, on a une compartimentation de l'espace à Bombay qui est très intéressante. Tout le monde parle de Dharavi parce qu'en fait, c'est le dernier bidonville. La ville, si vous regardez en 20 ans, s'est étendue dans le nord. Les fameux 10, 15 millions d'habitants supplémentaires se sont progressivement étalés dans le nord. Et je crains que c'est ça qui va être le mécanisme correctif. Là, vous pouvez circuler en voiture y compris, dans les nouvelles zones pavillonnaires. C'est là qu'on a mis les gueux qui ont été expulsés de Bombay, et qui est une sorte d'endormissement du Manhattan, ce qui aurait pu être le Manhattan indien, c'est-à-dire ce centre-ville dans lequel des riches, c'est que c'est le prix au mètre carré le plus élevé du monde quand même, y compris devant Tokyo. Or, franchement, l'environnement n'est pas particulièrement efficace. Donc, ce qui est intéressant dans l'Inde, c'est cette variété extraordinaire de situations et de mécanismes correctifs, sachant que l'élément de base, c'est que c'est pas une société autoritaire, c'est pas une société totalitaire, et donc elle laisse la société trouver son équilibre. Alors peut-être qu'il y aurait une nouvelle municipalité parce que la classe moyenne de Bombay a vraiment réussi à s'organiser, mais enfin les nouvelles que me donne ma fille qui habite Bombay sont pas très bonnes. La classe moyenne est sortie dans les rues, elle a manifesté au moment des attentats, mais elle n'arrive pas à s'organiser comme toute classe moyenne disait déjà il y a quelques siècles ou plus de 150 ans un célèbre politiste.
Merci à Arundhati Virmani, Jean-Joseph Boileau et Jean-Luc Racine. Ne partez pas dans un instant, c'est l'heure du documentaire Money Bombay.